Au niveau de la bibliographie, donc il y a quatre livres là, que je vais vous présenter. Donc deux thèmes, thème sur l'habitat et thème sur la vieillesse. Donc le premier, c'est de Bruno Parazotte, qui est ingénieur dans le bâtiment. Donc il écrit l'autopromotion, l'habitat groupé, écologie et liens sociaux. Donc il reprend tout ce qu'a expliqué Liliane Vitefem, là ce sera un peu plus précis. Donc comment concevoir un habitat groupé. Donc elle en a parlé, c'est là toute une explication de comment on peut mettre en pratique donc un projet, donc le penser, le réaliser, le financer, et puis l'après, qui est donc le vivre ensemble et comment on va construire un habitat groupé. Donc là c'est la base, c'est quand même intergénérationnel. Était là, Lidl, voilà. Et aussi, bon, on parle aussi des maisons de retraite, enfin des lieux de vie pour les personnes âgées. Donc il parle aussi de la démocratie participative, c'est-à-dire on choisit, nous, en tant que citoyens habitants d'un village, de vivre autrement. Et il l'explique très bien. Il a créé, donc il fait partie de l'association, les présidents de l'association Écoquartier de Strasbourg. Strasbourg, et puis ben, c'est à côté de l'Allemagne aussi, donc il y a plein de projets qui sont nés là-bas, c'est les précurseurs avec donc les pays du Nord. Et donc lui, donc il est président de cette association, il habite aussi, il a créé aussi avec d'autres personnes donc un habitat groupé, il vit avec sa famille. Et donc il met aussi dans son livre tout ce qui est comment dépasser les aléas, comme tu l'expliquais, de la vie de groupe. Alors il a mis quatre gros thèmes dans comment on est, nous, dans un groupe. Donc il y a le militant, donc celui qui, de toute façon, l'habitat groupé, la vie en société, c'est vraiment son truc, et donc il va militer pour ça, donc il fait partie de cette population-là. Il y a le soliste, donc celui qui pour qui l'habitat groupé, c'est une solution, parce que financièrement, c'est très intéressant, puisqu'on diminue les coûts. Il n'y a pas de promoteur. Et donc on construit son habitat, donc le soliste, il a tout intérêt à y être. Donc il y a des gens qui font partie et il faut l'accepter. Il y a les fédérateurs, donc ceux qui vont toujours être là pour arranger les choses quand il y a des aléas, des problèmes. Et puis il y a les modérateurs qui sont là parce que... Alors peut-être je fais la... Oui, c'est ça, le médiateur, qui lui va être là parce que son objectif, c'est que cette histoire d'habitat groupé, il faut que ça vive. Et il va tout faire pour que ça marche. Donc voilà, il faut faire avec ces quatre groupes, et c'est une aventure humaine bon, extraordinaire. Et là, il donne des petits conseils pour éviter les écueils. Il parle des expériences vécues, et il parle de ce lien social, quoi, qui est quand même la base de ses choix de l'autopromotion. Et, parce que de A à Z, on est maître de la création de cet habitat. Et puis ça crée du lien social. Et en plus, le fait d'habiter ensemble, ça va permettre... de s'ouvrir sur, comme tu disais, ça génère une ouverture sur le monde, et du coup d'être en groupe, on crée plein de choses. Après, on peut faire les jeudis en question. Voilà, bon, c'est... Donc il est très très intéressant, 24,30 €. Dans le même esprit sur l'habitat, c'est le vivre ensemble autrement. Donc c'est une préface de Pierre Rabhi, dont on a parlé. Alors, on a parlé de sa fille, mais bon, voilà. Intéressant, mais là c'est plus alors éco-village, habitat groupé et éco-quartier. Là il part de l'expérience de six lieux, alors en France, en Allemagne, en Belgique, et là il va plutôt étudier les valeurs qui portent ces projets et les expériences aussi. Bon, c'est intéressant, mais c'est plus de l'expérience, alors que celui de Parazotte, c'est une analyse, et ça peut aider à, si on a envie de se lancer là-dedans, parce qu'il parle aussi des projets financiers, comment on les monte, c'est plus technique. Donc voilà, donc dans la liste qu'on avait mis, il y avait bien d'autres documents, donc vous pourrez avoir sur Internet. Et je passe à l'autre thème.
Par mail, pardon.
Et l'autre thème, donc, c'est sur la vieillesse. Donc là, c'est énorme, hein, les livres qui traitent de ce sujet. Moi, j'ai choisi celui-là, je l'ai lu, je le trouve très intéressant. C'est Serge Guérin, qui est un sociologue, donc expert dans tout ce qui est le vieillissement de la population, de la société, et aussi les aidants, comment fonctionnent et vivent aussi des gens qui s'occupent de personnes à domicile. Et donc voilà, c'est la nouvelle société des seniors. Donc là, il passe en revue bon, l'aspect démographique. Il explique aussi que la vieillesse depuis très longtemps... Non, je ne sais pas historiquement, je ne me souviens plus, mais enfin là, aujourd'hui, la vieillesse, c'est synonyme de défaite, d'échec. Et que non, c'est pas ça. Alors on en a un petit peu parlé, hein, que la vieillesse, c'est la maturité, l'expérience, c'est un savoir-vivre, donc très important. Et que les seniors, donc la société des seniors, elle est multiple. Les seniors, on est seniors à partir de 45 ans dans une entreprise et jusqu'à 100 ans. Donc vous imaginez le panel déjà, rien qu'au niveau de l'âge, alors après au niveau social, économique, enfin idéologie, c'est énorme. Donc c'est très complexe. Et il lance des petites piques comme ça. Bon, moi j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'était sur les aidants, donc leur donner un statut social. Parce qu'au niveau économique, c'est énorme ce qu'ils font, puisque 80% des gens qui vivent à domicile le vivent grâce à la famille qui est autour d'eux. Et ça, c'est énorme. Donc à un moment donné, il faut que la société rende à ces gens-là voilà, quelque chose, quoi.
On a souvent l'habitude de consacrer un mot pour dire la richesse d'un pays, c'est le produit intérieur brut. Mmh. Ce soir, nous ne faisons pas partie de la richesse de notre pays. Les aidants ne font pas partie de la richesse du pays.
Alors que, voilà. Bien sûr, ils... voilà.
Alors, vous imaginez la richesse des pays africains.
Ils viennent aux maisons de retraite. Hein. Enfin, voilà, nous, on a rencontré voilà, au Sénégal des gens qui nous disaient, mais c'est fou, la modernité, ces histoires de maisons de retraite, mais c'est incroyable. Moi, quand je leur ai dit ce que je faisais et dans quoi je travaillais, ils étaient complètement ahuris. Voilà, donc, et c'est vrai, quand on dit bon, un vieux qui meurt, c'est une, c'est une bibliothèque qui disparaît, nous on l'a pas forcément dans la tête, cela, et c'est la réalité quand même. Donc là, il parle de donc, qu'est-ce que c'est que de vieillir, donc le système aussi de la réforme des retraites avec en fait le côté financier de la vieillesse, ça a un coût, est-ce que la société le prend en charge ou pas? Donc ça, c'est vaste sujet qui n'est pas fermé, mais qui n'est pas non plus discuté. Voilà, donc ça, c'est grand thème, mais je finissais, oui. Le truc important, c'est ça, c'est que la vieillesse, il faut l'avoir d'une autre manière, quoi. Côté positif, et il suffit d'avoir un autre regard sur nos vieux, et puis sur ce qu'on saura nous bientôt, pour se dire que c'est quand même pas mal de vieillir, hein. C'est la vie, donc il faut l'accepter. Bon, voilà, c'est une aide, et puis bon, il a des chiffres au niveau de la démographie, etc. Et sur l'habitat, il dit que l'habitat, c'est l'identité de la personne aussi. Et que ça a une importance cruciale. Et donc, comment les vieux vivent aujourd'hui, c'est aussi comment la société fonctionne, quoi. C'est que si là, on n'a pas la place des alternatives, c'est qu'effectivement, la vieillesse, pour nous, c'est pas intéressant parce qu'on est dans un système de productivité. Et que le vieux, il n'est pas rentable pour la société. Donc voilà, tout à repenser sur cet aspect-là. Et pour finir, donc dans le même thème, donc de la vieillesse, Betty Friedan, bon, c'est pas très récent, hein, c'est la révolte du troisième âge, c'est une féministe des années 60, qui était une des premières féministes aux États-Unis, qui a écrit donc ce livre-là sur donc la révolte du troisième âge, parce qu'elle, elle dit... C'est pas parce qu'on a 75 ans qu'on n'a rien à dire et qu'on est encore dans des envies, dans des projets. On a plein de choses à apprendre, à connaître. Et c'est son expérience. Voilà, à travers. C'est très, très positif. Voilà. Et une surprise du soir. Claude Olive, je vous aime, aux vieilles gens de notre temps. Et nous avons l'auteur ici. Ce soir, donc il va présenter son livre. Voilà.
Merci. Oui, alors si je suis ici, c'est parce que j'ai vu ce sujet, et c'est un sujet qui me tient tellement à cœur que je tenais absolument à venir. Et voilà, et c'est mon cri du cœur. Je vous aime aux personnes donc dites âgées. Et ce sont des personnes que j'ai beaucoup côtoyées. Et dans ce recueil, on trouve un cri du cœur, alors mais vraiment que vous pourrez déguster si vous avez envie. Après, il y a des histoires pour rire et penser. C'est-à-dire que visitant les maisons de retraite et les animant en disant des poèmes, racontant des histoires, eh bien, il y avait un jour, on parlait de chat tout à l'heure, eh bien, il y avait un chat qui s'appelait Cassandre. Alors j'ai inventé une histoire sur Cassandre. Vous pouvez imaginer comment ça peut se terminer. Dans une autre maison de retraite, il y avait une tortue qui s'appelait Sidonie. Alors j'ai raconté une histoire sur Sidonie. Et puis après, il y a des histoires un peu plus qui laissent à penser, et pas mal en lien, on évoquait Sophie Ravy et Pierre Ravy, et voilà, il y a le quiproquo de Pierre. Donc, je ne sais pas si vous l'avez écouté quelquefois dans ses conférences, et il raconte une histoire que j'ai mise en mots. Voilà, un conte pour nos jardins. Donc voilà, on est dans la conscience de la nature. D'ailleurs, il y a une petite histoire qui s'appelle Graines de conscience. Et puis après, il y a des histoires beaucoup plus personnelles, en proximité avec les gens qui nous quittent. Des gens aussi qu'on apprend à toucher. Parce que les choses importantes, ou qui est en contact, l'écoute, le regard, et après s'autoriser le toucher. Voilà, et puis ma belle-mère qui a 95 ans passé et qui ne voit plus depuis quelques années, et que j'accompagne, je la sors de la maison de retraite où elle est, et elle s'en va en vacances chez elle, et je m'occupe d'elle, 100%, jour, nuit. Voilà, donc après avoir passé une semaine avec elle, j'ai écrit ma nuit. Voilà, puis des petits poèmes où j'ai une voisine qui a 92 ans et qui un jour m'a dit « c'est fatigant de vieillir. L'attente est longue et la visite rare. Elle n'est plus de ce monde, elle n'est déjà plus là. Lasse de pleurer, de mendier, l'aide, le soin, la main. Lasse d'être encore là, d'oublier, de se lamenter. Elle ne sait pas, ne sait plus si hier il a plu et si demain le soleil luira. Elle ne sait qu'une chose, qu'elle est foutue, trop vieille et qu'il est temps de foutre le camp. Pourtant, elle sourit du vase fleuri, d'un baiser sur le front, de la douceur de son compagnon. Elle a choisi le corsage et la jupe aux couleurs assorties, car si elle doit partir, que ce soit au moins avec le sourire. Voilà.
Merci.
Merci.
Bon. On peut profiter encore de la présence de Liliane pour un quart d'heure. Montre à main cette fois-ci, parce que la montre, on l'a laissée un peu de côté jusque-là. Mais là, la SNCF n'attendra pas. Et donc, si vous voulez, on peut continuer le débat, aborder notre sujet qu'on aurait pas prêté, qu'on n'aurait pas vu là jusqu'à maintenant. Et juste la petite chose, c'est le chapeau que j'ai mis sur le fauteuil là-bas pour l'organisation de l'ensemble de la soirée. On a eu quelques petites dépenses, on défrait de voyage Liliane, et donc et le chapeau est fait pour ça. Mais on a l'habitude, j'ai bien question, donc vous ne l'oublierez pas par là. Voilà, Liliane, tu peux relancer ou bien il y en a qui
viennent. J'ai une question. Si parmi nous, enfin, localement, il y avait une envie de créer un habitat groupé, mais dans le style, on parlait de personnes âgées, mais plutôt quelque chose d'intergénérationnel, toi, Liliane, ou d'autres personnes seraient là, présents, enfin, pourraient venir pour aider à créer un...
Bah oui. Bah moi, c'est mon métier.
C'est vraiment ton
métier. Et on vient de créer en plus un réseau, parce qu'on n'était pas très nombreux à faire ça. Donc on a décidé de faire un réseau pour se passer les infos et puis pour essayer d'aider les personnes qui ont envie de faire ça, de le faire bien. Enfin, voilà. Parce que c'est vrai que comme on en parle de plus en plus quand même, d'un seul coup, on voit arriver des gens qui n'y connaissent pas grand-chose et qui cherchent à... Enfin, qui, voilà. Donc, c'est pour éviter ça. Donc, on a même fait un référentiel métier et tout pour être sûr. Donc, on est en train d'organiser ça. Donc, il y a des gens qui se sont spécialisés dans l'accompagnement de projets de ce type-là. Donc l'accompagnement, ça consiste, alors évidemment, ça dépend du profil de chacun, mais l'accompagnement, c'est aider les groupes à bien définir leur projet, parce que ça, c'est vraiment important. C'est qu'on peut avoir une idée de projet comme ça, mais en fait, il faut en savoir quelles sont les limites, jusqu'où on veut aller, etc. C'est déjà un travail important. Mais après, il faut trouver la structure juridique, le montage financier... Bon, les lieux, travailler avec les architectes, etc. Donc il y a tout un... C'est vrai que c'est un travail qui est quand même assez transversal, on va dire, en même temps, mais qui est très passionnant. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est un travail très participatif, comme c'est des groupes, on travaille ensemble. Donc c'est très enrichissant pour tout le monde. Donc c'est... Voilà. Oui, ça existe, évidemment, il y a des gens qui font ça.
On a su te trouver pour venir présenter ton travail. On saura te trouver si on va plus loin.
Est-ce qu'il y a déjà des collectivités qui ont fait appel à toi pour l'accompagnement?
Oui, en ce moment, je travaille sur... Alors, c'est un peu loin. C'est dommage pour moi, mais par contre, c'est très passionnant. C'est un projet, c'est sur Mulhouse. C'est à l'association, c'est une, à l'origine, l'initiative, c'est une association de handicapés, mais avec deux collectivités territoriales, des communes qui sont partie prenante et qui sont vachement bien. C'est à côté de Mulhouse, à côté de l'écomusée de Mulhouse, je ne sais pas si vous connaissez, et c'est sur une friche industrielle, les anciennes potasses d'Alsace, où c'est tout vide, il n'y a rien. Et donc, en fait, l'idée, c'est de créer là, parce que c'est des jeunes adultes handicapés, mais très handicapés moteurs. Mais ils ne veulent pas être en institution, ils trouvent que, et puis ils ne veulent pas être entre eux non plus. Donc leur idée, c'était d'être autonomes au maximum. Donc il leur faut logement, travail. Donc en fait, tout le projet tourne autour de ça. C'est-à-dire qu'on fait un habitat groupé avec, bon, pour eux bien sûr, donc adapté évidemment pour des personnes à mobilité réduite. Mais il y a aussi des personnes âgées et il y a aussi des familles avec des enfants. Donc ça, c'est au niveau logement. Mais tout le projet est basé sur un centre équestre de haut niveau. Alors pourquoi de haut niveau? Parce qu'il n'y en a pas dans le coin, mais aussi parce que ça permet de faire des concours qui sont très rémunérateurs et ça va permettre de financer l'équithérapie dont ont besoin les jeunes, les jeunes handicapés, mais aussi peut-être les personnes âgées, enfin certaines, pas en montant sur les... des classes vertes, des randonnées, des balades, enfin pour les gens, des gens qui veulent. Et puis il y a aussi un gîte d'accueil pour les familles, pour les gens qui vont utiliser le site. Et on crée pour tout ça, on crée une entreprise adaptée qui va gérer tout ça. Donc il y a des professionnels évidemment autour du métier du cheval, de l'accueil, et puis il y aura tout l'entretien du site, espace vert, etc. Et du coup, ces jeunes handicapés, ils ont du boulot. Enfin, ils vont avoir. C'est pas encore fait, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Mais je travaille sur ce projet-là, qui est très très passionnant, avec des communes qui sont bien moteurs et intéressées. Donc on va créer une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, dont les communes seront dedans. Et il n'y aura pas que les communes, il y aura l'association et puis un certain nombre d'autres partenaires. Mais c'est un projet qui est vraiment sympa et intéressant. Mais du coup, on voit bien qu'il y a... Et alors l'autre projet comme ça que j'ai avec des collectivités, c'est sur les baronnies dans la Drôme. C'est en fait, c'est une commune donc qui voulait créer un genre de foyer pour des personnes âgées, qui était contiguë à une maison pour enfants. Et ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Et en plus, à ce moment-là, ils ont été contactés par un groupe d'habitants qui ont dans les 40, entre 45 et 60 ans, et qui se disent, nous, on a envie de préparer la suite, mais pourquoi vous faites un foyer ? Peut-être qu'on peut faire autre chose de plus intéressant à plusieurs. Donc, ils m'ont demandé d'accompagner ça, puis d'essayer de voir comment on peut faire un projet autour de... Enfin, avec les trois, je ne sais pas encore, puisque ça démarre juste, mais ça peut être intéressant. Quoi. Donc, il y a des collectivités, effectivement, qui prennent des initiatives comme ça.
Oui, parce que le risque dans les projets autogérés, le risque c'est de tomber sur des projets bobos, de gens qui ont du fric et qui peuvent se payer ça. Donc moi je conçois pas, politiquement je conçois pas qu'on puisse travailler sur ou encourager des projets comme ça s'il n'y a pas un financement public derrière ou si c'est pas subventionné pour que ce soit accessible à tous. Quoi.
Alors il y a des subventions pour le moment, mais elles sont pas le problème. Enfin, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse avoir accès au financement du logement social. Or, pour avoir la tactique, c'est enfin, ce qu'on peut faire, c'est soit on passe par des communes parce qu'il y a quand même la proximité. Les communes, elles sont d'emblée, elles sont considérées comme bailleurs sociaux. Elles peuvent. Il faut qu'elles aient dans la volonté, il ne faut pas qu'elles soient trop endettées, etc. Bon, mais quand même ça. Mais il y a une proximité qui fait qu'on n'a pas la distance. Du bailleur social qui a des règles, mais il faudrait réussir à faire évoluer ces bailleurs sociaux pour le moment. C'est quand même quand c'est des coopératives HLM, par exemple, qui devraient avoir quand même un peu cette mentalité-là. C'est pas le cas. Donc en fait, c'est pour ça qu'on essaye de faire à travers des groupes d'habitants comme ça, et puis à travers une organisation qui est basée à Lyon qui s'appelle Avicop, qui travaille sur les coopératives d'habitants. On essaye de faire évoluer et la législation pour qu'enfin on puisse faire ça tranquillement au niveau en France, ce qui avance petit à petit, mais enfin c'est pas évident. Mais aussi travailler, donc faire pression suffisamment sur les bailleurs pour qu'ils entendent qu'il y a peut-être autre chose à faire que faire du logement social tel qu'ils le font. Bon, il en faut, mais on peut peut-être faire autrement, quoi.
Un habitat de ce type-là pourrait rentrer dans les critères d'obligation des collectivités à faire du logement social.
Ah bah oui, bien sûr. Oui, oui.
Donc des communes qui seraient réticentes à le faire pour X et Y raisons actuellement avec les critères qu'on leur demande, de leur proposer des projets qui seraient un petit peu plus alternatifs ou qui...
Oui, ça dépend quelles sont les raisons qui font que la commune ne veut pas avoir de logement social.
Voilà.
Voilà. Ouais. Après, bon, effectivement, il y a des communes, bon, en principe, ceux qui sont ouverts à l'habitat alternatif comme ça,
ils ont déjà
ils
leur
ont
quota.
En principe. Hein. Mais bon, ceux qui ne veulent pas faire de logement social, ils n'ont pas envie non plus d'avoir trop d'alternatifs ou de gens qui...
Qui pensent.
Enfin, la plupart du temps. Il y a peut-être des exceptions.
Et le fait que les collectivités soient considérées comme bailleurs sociaux, ça veut dire quoi
ben, en fait, les bailleurs sociaux, ils ont accès au financement des logements sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des subventions et il y a des prêts à des taux vraiment qui sont assez bas. Donc ça, c'est très intéressant, bien sûr. Donc, alors évidemment, ça dépend. Alors après, ça veut dire qu'on est obligé de rentrer dans la logique du logement social, c'est-à-dire il y a des PLU, des PLAI, des trucs comme ça. Ça veut dire en fonction de la catégorie de revenus des gens qui sont dedans, quoi. Donc, une fois qu'on a eu, des financements de ce type, bah, du coup, on est obligé d'avoir de la proportion... de logements, de mettre dans ces logements des gens qui correspondent aux revenus en question. Mais au moins, on peut choisir quand même, c'est plus au niveau des valeurs ou des choses à partager. Donc c'est quand même très important dans la vie. Moi, j'avais eu une première expérience avec la première expérience où j'ai vu ce que c'était qu'un bailleur social, c'était il y a longtemps, j'avais répondu comme à un programme d'architecture nouvelle à Poitiers. C'était pour des HLM. C'était un concours d'architecture. Et donc, on avait proposé, ça fait très longtemps, hein, donc, c'était, on avait proposé qu'il y ait à chaque étage une surface d'activité partagée pour laquelle il y aurait un budget. C'est-à-dire que, en fait, les gens avaient, par exemple, une petite salle au milieu. Ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient faire une salle de jeu pour les enfants, une bibliothèque, un atelier de bricolage, rien du tout. Enfin bon, voilà. Et donc c'était pour qu'il y ait une vie. Mais pour ça, forcément, il fallait que les voisins qui étaient autour de cette surface se choisissent, parce qu'il fallait qu'ils aient la même envie, forcément. Et donc, on avait été sélectionnés. Donc, le bailleur social à l'époque était tout à fait partant. Il avait dit d'accord, pas de problème et tout. Bon. Donc, on avait été jusqu'à faire les réunions avec les. Alors, ils avaient choisi avec leurs critères de revenus les habitants, en fonction des critères de revenus. Mais du coup, on avait un certain nombre d'habitants. Et du coup, on faisait des soirées avec les gens où on bouffait, on discutait comme là. Et puis, du coup, les gens se choisissaient. Ils disaient, moi, je veux faire j'aimerais bien faire une salle de jeu pour les enfants, etc. Et donc, les gens s'étaient à peu près choisis. Voilà, tout était bien. Sauf qu'au dernier moment, le directeur, le président de l'office a dit, non, c'est les critères de revenus. Donc, comme il y avait, par exemple, des PLAI avec des PU ou je ne sais pas quoi, les catégories de revenus, ah ben non, il fallait qu'ils soient tous. Donc, on va les mettre comme ça. Sauf dans une, s'il y avait quatre tours avec des bars entre, et sauf dans une des tours où lui il faisait partie d'une secte et il a installé sa secte dedans. Et alors là, ça fonctionnait exactement comme ça aurait fonctionné s'il avait laissé faire les choses se faire ailleurs. C'est-à-dire que c'était comme les gens, ils sentaient comme chez eux. Ça veut dire qu'ils entretenaient très bien l'espace collectif. Il y avait des fleurs partout, il y avait des trucs et tout. À tous les étages, il y avait. Et c'est exactement ça qu'il y aurait eu ailleurs s'il avait laissé faire les choses. Donc moi, cette expérience-là, elle m'a un peu servi. Je me suis méfiée. Maintenant, c'est vrai que quand on travaille avec un bailleur, je me méfie un petit peu parce que je sais que. Ils ont des règles, ils le disent carrément maintenant, hein, quand on leur dit, de toute façon, vous, avec vos règles d'attribution, on ne peut pas choisir. Ils disent, oui, c'est vrai, c'est comme ça, on ne peut pas. Alors, on arrive à négocier parfois avec certains bailleurs, mais le problème, c'est que c'est une question de personne. C'est-à-dire que si on a un directeur ou un président d'office qui est ouvert, il va dire d'accord. Mais si jamais il est muté ailleurs et que c'est plus lui, il est remplacé par quelqu'un d'autre ou qu'il prend sa retraite, et ben, le suivant pourra dire « moi j'applique la règle, point, et puis c'est tout ». Donc ça, c'est quand même embêtant, quoi.
Et perspective de faire changer ces règles, elles existent pas vraiment
Comme il y a une forte demande quand même, et que, bon, petit à petit, mais ça avance très lentement, quoi, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'avec les communes, ça va un peu mieux, parce qu'il y a une proximité, c'est quand même leur futur, c'est quand même leurs électeurs. Donc ils se disent, bon, après tout, on va peut-être un peu mieux écouter. Donc il y a plus moyen de discuter dans ces conditions-là. Quoi. Mais le problème qu'on a avec les communes, c'est que parfois elles sont en limite d'endettement, par exemple. Donc, du coup, elles ont peu de liberté, voilà, elles ont peu de...
Passer au plus court pour créer les logements sociaux et pas avoir à y réfléchir trop longtemps.
Oui, c'est ça. Et donc, et puis, ou même quand elles sont ouvertes et qu'elles ont envie de le faire, bah, elles se disent, mon taux d'endettement est tel que maintenant, par exemple, je peux pas ni garantir, ni moi-même... faire l'emprunt. Donc il faut trouver un système, un montage juridique qui fait que pour la commune, ça sera une opération blanche. Donc si on arrive avec ça, ce qui est tout à fait possible à faire, à ce moment-là, si on a une commune qui est sensible à la question, c'est bon, on y arrive, ça va.
Ça va.
Merci.
Ça ne veut pas dire que la soirée s'achève, vous pourrez continuer de débattre, mais je me suis chargé de la ramener.